puisque c'est le mot du jour, je suis moi aussi heureux de présider cette messe de rentrée de l'enseignement catholique de notre diocèse et de confier aujourd'hui une mission ecclésiale au nouveau chef d'établissement de cette année. Donc j'ai déjà fait la connaissance de moi parce que certains sont déjà chefs d'établissement depuis un certain temps dans notre diocèse, mais en tout cas dont j'ai fait la connaissance lors de notre journée de pré-rentrée à Sauveterre de Béarn. J'en profite d'ailleurs pour remercier les chefs d'établissement, encore une fois, pour leur engagement au service des enfants, des jeunes, des familles de nos établissements d'enseignement catholique, que ce soit sous tutelle diocésaine ou sous tutelle congréganiste. J'ai conscience que votre charge est souvent lourde, et elle était particulièrement lourde l'année passée avec la crise sanitaire que nous connaissons, le confinement au plus fort de la pandémie, et je sais aussi que la rentrée n'est pas facilitée par toutes les conditions sanitaires qui nous sont encore imposées, même s'il me semble que le pic de l'épidémie est déjà bien dépassé. D'ailleurs, je me permets de dire que lorsque je vous ai rencontré lors de cette journée de pré-rentrée, où c'était un moment important pour vous, parce que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas tous rencontrés, en tout cas pour un moment convivial qui a suivi la matinée, j'ai trouvé que beaucoup d'entre vous semblaient fatigués. Alors j'espère que vous avez pris quand même le temps du repos pour cet été. J'ai bien conscience qu'il y avait aussi l'inquiétude de la rentrée dans laquelle vous êtes maintenant lancé. Et c'est important en effet de trouver le temps de se reposer. Parce qu'il faut faire face aussi à tant de tensions que cette crise sanitaire et toutes celles qui sont induites par la crise sanitaire et qui s'annoncent petit à petit, crise économique, crise sociale, et toutes les pathologies parfois aussi, de psychologie sociale, qui sont induites par cette crise sanitaire. Donc c'est d'autant plus difficile parce que vous avez un rôle souvent de modérateur, de pacificateur au sein de vos établissements. J'ai bien conscience aussi que les textes que nous n'avons pas choisis, puisque ce sont ceux du mercredi de la 23e semaine du temps dit ordinaire, en particulier ces digressions de saint Paul dans le premier épître aux Corinthiens sur le célibat et sur le mariage, ne sont pas parfaitement appropriés à cette rentrée de l'enseignement catholique. Et en même temps, c'est ce qui motive saint Paul dans ces considérations. Qui nous rejoint? Je pense en particulier à cette parole qui certainement résonne particulièrement en vous, chef d'établissement, mais aussi enseignant, personnel de Jacques, parents d'élèves. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Je pense bien que vous vous référerez ici à la pression des urgences dans laquelle vous êtes plongé plus qu'à votre tour, tant votre charge, qui est d'abord une charge d'éducation, d'enseignement, est aussi alourdie par bien des tâches administratives, académiques, les relations humaines aussi qui sont au cœur de votre mission, et je pense aussi votre statut désormais d'agent sanitaire, qui alourdisse encore et appesantisse votre mission. Et vous vous dites, je n'ai pas le temps. Le temps est limité. Mais vous comprenez bien que saint Paul le dit ici en référence à l'avènement du royaume des cieux, concluant, car il passe ce monde tel que nous le voyons, qui nous rappelle que dans nos tâches les plus ordinaires, alors que nous devons de manière responsable assumer des responsabilités temporelles, nous sommes en pèlerinage sur la terre et nous cheminons vers le royaume des cieux. Ce qui situe bien votre mission, mission d'enseignement sans doute, mais qui est au cœur d'une mission d'éducation intégrale, comme nous disons dans l'enseignement catholique, et qui est au cœur encore d'une mission ecclésiale, la mission de l'Église à laquelle vous participez à travers votre responsabilité de chef d'établissement, à travers votre activité, quelle qu'elle soit, dans l'enseignement catholique. C'est l'annonce de l'Évangile du Royaume des Cieux. Et le temps qui est limité doit être placé dans la perspective du Royaume des Cieux. Comme Jésus nous le dit d'une manière assez lapidaire et percutante chez saint Luc, où le récit des Béatitudes est résumé, raccourci par rapport aux 8 Béatitudes de saint Matthieu. Résumé à 4 et assorti de 4 malédictions qui prennent le contre-pied exact des béatitudes que Jésus vient de proclamer. Ce sont les béatitudes du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Jésus ne semble d'ailleurs pas parler à tous les hommes, mais à ses disciples, comme dit saint Luc. Je note en particulier que cette traduction « heureux » du terme grec « makarioi » ou latin « beati » n'est pas tout à fait appropriée. Et je regrette cette traduction liturgique. « Heureux » a une connotation principalement profane qui se réfère à un bonheur, comme nous disons, qui est important, mais qui reste le bonheur terrestre. « Makarioi » Beati serait mieux traduit par bienheureux, qui se réfère non pas seulement à un bonheur, mais à une béatitude, comme nous disons nous dans l'Évangile, qui concerne le royaume des cieux et qui nous inspire cette conviction que le vrai bonheur, la vraie béatitude vers laquelle nous marchons et que nous voulons particulièrement dans notre mission pour les jeunes et les familles qui nous sont confiées dans l'enseignement catholique, c'est le bonheur du royaume des cieux qui appartient à ceux qui suivent Jésus-Christ, dont la présence, dont la parole, dont la grâce, par les sacrements en particulier, nous établit dans cette béatitude, dans cette joie, qui commence dès ici-bas, mais qui s'éclatera, qui s'accomplira, qui se consommera dans l'éternité. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Il est à vous. Pas seulement il sera à vous, mais il est à vous. Béatitude résumée sans doute, mais qui disent de manière très significative le programme de la vie chrétienne, le programme aussi de l'évangélisation par l'enseignement au sein d'un projet d'éducation intégrale qui est souvent à contre-courant du programme de vie qui est proposé à nos contemporains et en particulier aux jeunes qui sont peut-être moins armés pour discerner, pour critiquer, pour demeurer libres de la vraie liberté que nous avons demandée dans la prière d'ouverture de cette messe qui conduit à la vie éternelle, celle que propose le monde. Malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Qui rejoint sans doute ce que saint Paul dit aux Corinthiens pour leur reprocher leur manque d'ouverture surnaturelle au royaume des cieux, leur manque de foi au mystère du Christ mort et ressuscité, qui est le cœur même de la vie chrétienne et qui est le cœur de la mission du chrétien dans le monde. Mangeons et buvons, jouissons de l'existence, demain nous mourrons. Comme ce serait dommage que le seul message que le monde donne dans une société de consommation dont nous avons été un peu privés pendant le temps du confinement et qui sans doute nous a fait un peu de bien quand même, en nous réapprenant une certaine sobriété de vie, mais est déjà un souvenir lointain, car le déconfinement a apporté aussi un retour à ce consumérisme qui caractérise notre culture d'aujourd'hui. Et nous avons à être les témoins de ces quatre béatitudes. Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim maintenant, c'est-à-dire faim et soif de justice, qui êtes épris du bien d'autrui, qui ne recherchez pas d'abord votre intérêt propre. Heureux vous qui pleurez maintenant, qui savez renoncer à ces plaisirs qui ne vous donnent pas la vraie joie, qui vous fait rire, mais pas de ce rire qui sera le nôtre éternellement dans le royaume des cieux. Le temps est limité, ce monde passe. Apprenez à maîtriser vos instincts, vos inclinations naturelles sans doute, et que nous vivons souvent sous le régime de la transgression à cause des blessures du péché originel qui nous traverse et qui traverse notre humanité. Mettez-vous à l'école de Jésus, soyez des disciples de Jésus pour acquérir cette vraie liberté qui vous donnera le vrai bonheur et qui vous permettra, vous, chef d'établissement, enseignant, personnel de jeunes, parents d'élèves, et nous tous qui sommes des disciples de Jésus, de témoigner d'un vrai sens à donner à la vie, d'un nouvel horizon que celui étriqué qui nous est proposé bien souvent par le monde, d'une ouverture de cœur, non seulement à Dieu, mais à notre prochain. Toutes valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs morales, car nous ne sommes pas dans la moralisation de l'Évangile, auquel nos contemporains, et en particulier les jeunes, en quête de sens, aspirent tellement du plus profond de leur cœur. Alors, vous, chefs d'établissement en particulier, nouveaux chefs d'établissement, rappelez-vous que c'est en vertu de votre qualité de disciple de Jésus que vous avez été choisi pour assumer cette mission d'évangélisation par l'éducation et principalement par l'enseignement qui est votre cœur de cible. Rappelez-vous encore une fois que le temps est limité par rapport à l'avènement du royaume pour vous et pour ceux qui vous sont confiés, mais aussi par rapport à la pression des urgences. Vous avez besoin vous aussi de vous ressourcer dans cette relation, dans cette rencontre, dans cette intimité avec Jésus, dont vous êtes les disciples. La première urgence pour un chrétien, la première urgence pour un chrétien en responsabilité, quel que soit le poids des tâches qui pèsent trop lourdement sur vos épaules, c'est la prière qui allège les fardeaux de notre vie, qui nous permet de les confier davantage à Jésus, qui nous permet d'accueillir dans notre vie les forces dont nous avons tant besoin. Ça me rappelle cette anecdote de la vie de Saint Jean-Paul II, qui se rendait, je ne sais quelle destination lointaine, à travers l'un de ses nombreux voyages apostoliques qu'il a accompli tout au long de son long pontificat. Il est à l'avant de l'appareil, plongé dans son bréviaire, les yeux fermés, avec un air immergé dans la présence de Dieu, il prie. Son secrétaire s'approche par derrière, Don Stanislas Divitch, et lui dit: « Très saint père, nous sommes contactés par le Vatican, il y a une urgence à traiter. » Le pape lui fait comprendre par des signes: « Tu vois bien que je prie. » Stanislas recule, s'en retourne, et puis un quart d'heure plus tard, il revient, il s'approche du pape, un peu impatienté, et il lui dit: « Mais c'est que c'est très urgent, très simple. » Et le pape lui répond: « Raison de plus pour que le pape prie. » Raison de plus, chers frères et sœurs, et vous en particulier, qui êtes en responsabilité dans l'enseignement catholique, pour prier, vous verrez comment l'on arrive davantage à discerner entre ce qui est urgent et essentiel, et que l'on porte tellement plus facilement les urgences, et que l'on témoigne tellement plus facilement du bonheur, de la béatitude, de la joie du royaume de Dieu dont nous devons être les témoins pour les jeunes et les familles.